Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère en forme en ce samedi matin. Bon, les temps sont moroses, on va pas se mentir, mais dans Nous voilà bien, de 9h15 à 10h sur RTL, on fait de la résistance. On a décidé de garder le moral et de cultiver notre bonne humeur. Alors c'est parti pour 45 minutes de bons conseils et d'ondes positives sommaire. Il vous suffit de cliquer sur un site de vente en ligne pour la voir apparaître partout ensuite lorsque vous surfez. C'est ce que l'on appelle la publicité ciblée. Les sites nous espionnent-ils et doit-on s'en inquiéter? Armelle Lévy, journaliste au service Éco et Conso à RTL, nous explique tout dans un instant. On s'imagine que la fin de l'été signe la fin des fleurs d'ornement. Que nenni! Fleurir son balcon ou ses fenêtres en automne, c'est possible. Alors, quelle fleur choisir? Pierre Nesman, paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, va nous en faire voir de toutes les couleurs. Je ne sais pas vous, mais moi, quand le froid revient, ça me donne envie de manger une bonne soupe. Alors, quelles recettes vont ravir petits et grands? Ligori Lecomte, de CuisineAZ.com, nous dévoile ses secrets de chef. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Vous êtes journaliste au service Éco et Conso à RTL. C'est quoi la publicité ciblée?
Eh bien, tout modèle économique des grands acteurs d'Internet, c'est de se rémunérer sur la publicité. Donc, tous les Google, les Facebook, ils gagnent de l'argent quand vous cliquez sur la publicité. Donc, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est que vous ayez envie de cliquer sur des publicités. Et pour que vous ayez envie de cliquer sur la publicité, il faut qu'on vous mette des publicités adaptées à qui vous êtes, à ce que vous aimez, où vous êtes. Donc, c'est pour cela qu'ils essayent de nous profiler. Parce qu'une femme de 45 ans qui aime la mode ne va pas du tout avoir les mêmes envies de clics qu'un ado de 15 ans qui aime les jeux vidéo. Et on sait par exemple que Facebook a 75 catégories où ils mettent les personnes dedans pour vous proposer des choses qui vous plaisent. Là, c'est un homme, là, c'est une femme. Lui, il aime bien le tennis, elle est plutôt religieuse aux États-Unis, ils suivent ce genre de choses. Et là, pour pouvoir profiler les gens, il faut savoir ce qu'ils font et où est-ce qu'ils vont sur Internet. Et le lien, ce sont les cookies.
Les fameux cookies qu'on accepte toujours, en
fait. C'est ça. Les cookies, ce sont des informations, des petits fichiers qui sont déposés sur votre ordinateur ou sur votre téléphone par les sites. Ce sont des traceurs qui vont rester sur votre terminal et les sites vont pouvoir lire ces fichiers et les modifier.
Donc, en fait, les cookies qu'on accepte, c'est une façon pour nous d'être fliqués, quoi.
Bah, ce sont vos données personnelles.
Voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là?
En fait, le cookie, à l'origine, a été inventé pour nous faciliter la vie, pour que notre navigateur Internet ait de la mémoire. À chaque fois qu'on va sur un site, il se souvient de notre nom, de notre prénom et même de notre panier qui n'a pas encore été validé. On n'a pas à tout recommencer. On peut revenir sur la page qu'on aimait bien. C'est utile à la navigation. Sauf que cet outil technique a été détourné pour nous tracer sous l'angle publicité.
Alors, il suffit que j'aille par exemple sur un site qui vend de l'électroménager pour que ce site apparaisse aussitôt en encart pub sur d'autres pages que je consulte ou sur mes réseaux sociaux. Ça m'a toujours surprise et j'ai vraiment l'impression dans ces moments-là d'être surveillée, voire d'être harcelée. Comment ça s'explique ça?
Eh bien, typiquement sur un site électroménager, quand vous allez regarder une machine à laver, cette information va être stockée sur votre ordinateur dans un cookie. Donc le lendemain, vous rallumez votre ordinateur, vous allez sur n'importe quel site, quand il va se lancer, le site va pouvoir lire le traceur de votre activité et il va voir que vous regardiez les machines à laver. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous met des pubs de machines à laver pour que vous cliquiez dessus et qu'il gagne de l'argent.
Et cette pub, elle va nous être proposée pendant combien de temps?
Alors justement, là c'est tout nouveau, ça vient de sortir, les autorités cherchent à ce que ça dure le moins longtemps. Oui. Mais les publicitaires, eux, cherchent à tout garder pour pouvoir nous tracer toute notre vie. Et c'est tout le débat. Qu'est-ce qu'on a le droit de garder, pas garder? Qu'est-ce qu'on a le droit de tracer, pas tracer? Alors la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, vient de préciser la semaine dernière que la durée de conservation d'un cookie ne doit pas dépasser 6 mois. Au bout de 6 mois, un site doit vous demander une nouvelle fois votre consentement pour lire ou pour déposer un traceur sur votre terminal. Mais le plus important, dit le régulateur, c'est que vous ayez conscience que vous êtes tracé et que vous acceptiez ce fait-là. Donc, à partir de maintenant, quand vous irez vous balader sur un site web, vous aurez toujours un bandeau qui dit « j'accepte les cookies » ou « je les accepte pas ». Et si on propose d'accepter les cookies en un clic, on doit aussi proposer de les refuser en un clic. Parce qu'aujourd'hui, pour refuser, vous savez, vous devez cliquer sur plus d'informations, encore 5 fois avant d'accéder à refuser. Voilà, c'est ça. Et les sites, maintenant, ont jusqu'au mois de mars pour se mettre en conformité sous peine de sanction. Et je précise juste un dernier changement depuis la semaine dernière. Maintenant, quand vous poursuivez votre navigation sur une page sans répondre, cela ne veut plus dire que vous acceptez les cookies. Au contraire, cela veut dire que vous les refusez, que vous n'avez pas donné votre consentement.
Donc ça, c'est noté et vous nous donnez plein de conseils aujourd'hui très clairs justement pour que l'on puisse cesser d'être harcelé par cette publicité ciblée. Dès qu'on se balade sur un autre site de vente, il prend le relais en fait ce site.
Mais oui, parce que derrière, vous avez aussi des acteurs qui consolident entre plusieurs sites les informations que vous avez vues et qui font ce qu'on appelle du marketing digital à large échelle. D'ailleurs, c'est impressionnant quand vous lancez un site web, parfois derrière, vous avez 25 traceurs qui sont liés à plusieurs régies publicitaires, plein d'intermédiaires, qui vont collecter ce que vous avez lu et qui vont elles-mêmes revendre ces informations aux plateformes pour qu'elles puissent établir un meilleur profil de vous, pour mieux vous tracer. Donc on connaît tous vos goûts, tout ce que vous avez regardé pendant ces 6 derniers mois, il y a tout un écosystème du traçage derrière.
Je vous écoute et là je me dis, mais si on va sur des sites coquins, qu'on achète, je sais pas, des sex toys ou qu'on va voir des sex shops, là aussi on va avoir des pumes intempestives.
Oui. Mais ces sites-là savent qu'ils manipulent une matière difficile à afficher si c'est un ordinateur partagé dans la famille. Mais ça peut arriver.
Ils savent que c'est un ordinateur partagé.
Ils peuvent le savoir. Alors là, ils peuvent.
Et au bureau, alors ça veut dire aussi que. Ben,
ça peut arriver
apparaître.
Que vous ayez des publicités, effectivement, coquines. Après.
Bon, alors. Comme ça, tout le monde le sait maintenant. Méfiance. Ça fonctionne bien la pub ciblée ou pas? Est-ce que c'est efficace?
Oui. Globalement, oui, ça marche mieux que la pub complètement généraliste et ça se comprend. Pour schématiser, on ne va pas vous proposer de la dentelle si vous êtes un homme de 40 ans amateur de boxe. Donc ça augmente le pourcentage de clics et la chance que ça vous plaise. Et c'est tout le modèle économique des grands acteurs de l'Internet.
La publicité ciblée, elle est, paraît-il, désormais autorisée à la télévision. Concrètement, ça va donner quoi, Armel?
Ah, c'est vrai, ça arrive. Ce sont des expérimentations qui sont faites et il faut vraiment valider que vous êtes d'accord pour le faire. Mais pour l'instant, c'est un ciblage encore très large, avec des critères beaucoup plus simples comme celui de la localisation géographique. On pourra par exemple vous proposer des chocolatines dans le sud-ouest et des petits pains au chocolat ailleurs. Mais voilà, on ouvre une porte qui peut aller très très loin. Si on sait ce que vous regardez, qui compose le foyer et qu'on fait le lien avec votre profil internet, très vite on pourra vous proposer des publicités encore plus ciblées. Donc à terme, si on va jusqu'au bout de la démarche, dans un même immeuble, un célibataire au premier étage qui regarde le même programme que le couple au troisième étage avec un bébé, ne verra plus les mêmes publicités que ses voisins. Mais pour l'instant, on n'en est pas là encore. Hein.
Vous aimez la soupe, vous?
Ah, j'adore ça.
C'est vrai, c'est super, parce que Ligorie Lecomte viendra nous rejoindre tout à l'heure sur cette antenne pour nous donner des recettes de soupe. On va parler aussi de balcon, de fleurs avec Pierre Nesman, mais vous restez avec nous car on n'en a pas fini de notre sujet. A tout de suite pour Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
Mais oui, on peut avoir un balcon fleuri à l'automne. Pierre Nesman va nous rejoindre dans un instant. Il va nous donner plein de conseils, justement, pour mettre des couleurs dans notre vie. Et puis après, des couleurs, on en aura dans notre assiette creuse, dans notre bol, puisque Ligorie Lecomte va nous donner des recettes de bonne soupe. On a un temps à soupe, là, en ce moment. Mais pour l'heure, on dézingue les pubs ciblées avec Armel Lévy.
J'aime la pub, la publicité. J'aime ces tubes qui viennent m'exciter. Quand
ouais, alors ça, c'était du temps de Charles Trenet, parce qu'elle nous excite plus tant que ça, en fait. Les pubs ciblées, on apprend énormément de choses avec vous, Armel Lévy, merci. Vous êtes journaliste au service éco et conso à RTL, et justement, grâce à vous, on est des consommateurs plus avertis. La pub ciblée, on en parlait tout à l'heure, on a compris qu'il faut vraiment, quelque part, se méfier, et puis savoir ne plus accepter tous ces fameux cookies. En général, on clique sur « j'accepte », et puis, en fait, en réalité, ce sont nos données personnelles qui se trimballent, finalement, de site en site et qui font de nous des victimes potentielles de la publicité ciblée. Les contenus sponsorisés aussi sur nos réseaux sociaux de marques inconnues comme ça à des prix cassés, eux aussi sont ciblés?
C'est exactement le même principe. Mais bon, c'est ça qui est drôle, c'est que parfois ça ne marche pas du tout. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Donc sur les téléphones, de la même manière, vous avez les mêmes cookies et l'enjeu pour les annonceurs, c'est de relier nos différents périphériques entre eux. Notre téléphone personnel, professionnel, l'ordinateur, la tablette, nos applis. Et en nous demandant de nous identifier à chaque fois avec notre mot de passe, ça leur permet de faire le pont entre quel est notre ordinateur, quel est notre téléphone, pour qu'il y ait une continuité dans la publicité.
Et comment être sûr que ce ne sont pas des arnaques, ça?
Alors normalement, les régies publicitaires qui ont vendu cet espace de publicité vérifient que l'annonceur est solvable derrière. Donc si vous êtes sur des sites de qualité, les pubs sont fiables la plupart du temps. En revanche, dès qu'on commence à aller sur des sites un peu moins fréquentables, je pense aux sites de piratage de contenu, vous allez voir le dernier épisode de votre série préférée sans payer. Là, vous tombez sur des publicités qui sont plus des logiciels malveillants que de vraies publicités, qui vont essayer cette fois-ci non pas de vous vendre quelque chose, mais de prendre le contrôle de votre ordinateur et de vous pirater vos données. Mais là, on change de dimension. Ce sont des cybercriminels.
Est-ce qu'on peut éviter tout ça, justement, de ne plus être quelque part suivi à la trace dans notre navigation, de pouvoir être un consommateur libre dans le monde d'aujourd'hui ?
C'est extrêmement difficile parce que c'est le but quand même d'être suivi. Alors j'ai deux conseils quand même. Le premier de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, c'est pour effacer la mémoire publicitaire sur votre téléphone mobile. Si vous voulez couper net avec tout ce qui a été stocké, tout ce qui a été tracé avant, il faut changer votre identifiant publicitaire. Vous allez dans Paramètres, confidentialité, publicité sur votre téléphone et vous avez une option suivi publicité limitée et voilà, vous avez un nouvel identifiant publicitaire. Cela ne réduira pas le nombre de pubs que vous recevrez, mais elles ne seront plus ciblées. Et le deuxième conseil du cabinet Webstone, spécialiste de la cybersécurité, pour limiter les pubs ciblées, vous pouvez naviguer en mode privé. Quand vous allez sur votre navigateur, par exemple Google Chrome, Firefox, vous avez un clic droit, vous cliquez sur un nouvel onglet, vous cliquez sur « Ouvrir » en navigation privée, et vous verrez, l'écran devient un peu plus sombre. Vous avez un petit bonhomme avec un chapeau en haut à droite ou un petit masque. Les pubs ne vont pas être les mêmes. Vous surfez, vous n'êtes pas tracé. Donc, en navigation privée, on va oublier vos choix. Sur l'iPhone, c'est facile, c'est tout bête, même chose. Quand vous ouvrez Safari, vous cliquez sur le double carré en bas à droite, puis sur privé. Donc, si vous voulez faire un cadeau à votre conjoint et que vous ne voulez surtout pas que ça apparaisse dans les pubs, c'est ce qu'il faut faire.
Et puis si on veut juste être peinard, quoi.
Ah aussi.
Voilà, donc il y a quand même des solutions. Merci de nous les avoir livrées aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Et ceux qui arrivent en cours de route, je vous conseille vraiment d'aller écouter cette émission et les conseils d'Armelle Lévy en podcast de Nous Voilà Bien sur RTL.fr. Armelle Lévy, merci beaucoup. On va s'occuper maintenant de nos fleurs, de nos balcons.
Elles ont bien besoin.
Voilà, et ensuite, Igori Lecomte nous parlera justement des soupes.
Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne.
Bonjour Pierre Nesman.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, vous êtes rédacteur en chef de l'émission Mission Vigitale diffusée sur M6, vous êtes notre invité jusqu'à 10h. Qui dit automne dit fin des fleurs d'ornement, non ? Tout à coup je trouve que c'est la déprime quand on lève la tête et qu'on voit les balcons.
Ah non, pas du tout. Il existe plein de plantes fleuries pour accompagner l'automne. Alors évidemment, il y en a beaucoup moins qu'en été, mais quelques-unes assurent quand même un fleurissement efficace. Et alors, en plus des fleurs, il y a très souvent les feuillages colorés, originaux, les choux d'ornement, les cinéraires, le lierre panaché, puis aussi quelques baies décoratives comme le skinia, le houx, les pernétias, et bien entendu, toutes les écorces colorées comme les cornouillers. Donc vous voyez, il y a quand même matière pour faire quelque chose.
Donc ça veut dire par exemple que cet après-midi, je peux fleurir mon balcon, quoi. C'est possible encore.
Ah, complètement. Alors évidemment, comme vous n'êtes pas au jardin et en pleine terre, il va falloir choisir un contenant, le remplir de substrat. Mais à partir du moment où vous avez rempli cette condition, eh ben vous allez pouvoir planter plein de fleurs et plein d'arbustes sur votre balcon.
Bon, les couleurs de l'automne, c'est pas folichon, folichon. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec du marron, du jaune, du orange. Pardon de le dire comme ça, c'est horrible. Mais ça fait un peu cimetière, quoi. Ça fait un peu chrysanthème, alors, l'histoire.
Oui, c'est vrai. Ça dit qu'on n'échappe pas aux couleurs flamboyantes de l'automne. Mais bien entendu, il y a d'autres couleurs. En plus du roux, du jaune et de l'orange, vous avez des nuances de rouge, des nuances de pourpre. Il y a également du rose, vous avez également du violet, du bleu et bien sûr du blanc. Donc finalement, on a une palette. Quand on regarde bien dans une jardinerie ou chez un horticulteur, on a une palette de couleurs qui est quand même assez importante avec laquelle on va pouvoir s'exprimer.
Quelle plante choisir pour fleurir notre balcon justement en ce moment ? Il y a Armelle Lévy qui vous écoute, elle va prendre des notes.
Notez bien, il y a plusieurs catégories. La première catégorie, ce sont les plantes bisannuelles. Vous savez, ce sont les pensées, les violettes, les pâquerettes et les primevères qu'on va trouver chez les horticulteurs et dans les jardineries. Alors, elles sont pas toujours très en fleurs, mais rassurez-vous, il y a des boutons floraux et ce sont surtout des plantes qui vont résister au froid et qui vont fleurir pendant tout l'hiver et surtout au printemps prochain.
Les pensées
et puis
aussi.
Après, les pensées également, violettes, oui, tout à fait. Et puis, il y a évidemment les plantes d'automne, les fleurs d'automne. Alors là, vous les avez citées tout à l'heure, les traditionnelles chrysanthèmes. Aujourd'hui, on les rebaptise un petit peu marguerites d'automne, ça passe un peu mieux. Il y a également la bruyère d'hiver, vous avez les cyclamens, les cinéraires, les asters d'automne. Et puis j'en parlais tout à l'heure, n'oublions pas les feuillages colorés, les feuillages décoratifs. Vous avez des feuillages qui ont des tons argentés, comme les cinéraires maritimes, la santoline, les mortelles, les teintes rousses, caramel ou pourpre, avec les fameuses euchères. Et puis toutes les plantes qui sont à feuillage panaché, comme le lierre ou la véronique, les choux d'ornement et bien entendu la grande famille des graminées qui est très à la mode actuellement, les carex, les fétuques, les lusules et les stipas.
Comment c'est beau quand vous en parlez.
Voilà.
Ça tombe bien, vous allez rester avec nous. On vous garde, on vous retrouve dans un instant avec tous vos conseils. Pierre Nesman, ça donne envie d'aller mettre la main dans la terre, hein, Armelle Lévy. Là, hein.
Oui, oui, ça, mais ça, on ne les arrose pas l'avantage à cette saison.
Alors attends, ce sont les questions qu'on va poser à Pierre dans un instant. Justement, on se retrouve pour la suite de Nous Voilà Bien.
Nous Voilà Bien sur RTL avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, Nous Voilà Bien.
Merci d'être avec nous, nous sommes ensemble et bourrés de conseils, justement, jusqu'à 10h. On a parlé publicité ciblée avec Armelle Lévy qui, comme d'habitude, reste dans ce studio parce qu'on a plein de choses à apprendre, Armelle. Avant d'avoir des recettes de soupe de Ligori Lecomte, on est à la fenêtre, on est à notre balcon.
Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas.
La jolie voix de Clara Luciani, les fleurs sur RTL. Les fleurs d'automne, on en parle avec Pierre Nesman. En fait, on peut fleurir nos balcons, on peut fleurir nos fenêtres, Pierre Nesman, et c'est pas forcément déprimant avec uniquement des chrysanthèmes. Rebaptisé, vous nous l'avez dit il y a un instant.
Les marguerites d'automne, c'est quand même plus élégant.
Ouais, c'est plus joli parce que chrysanthème, c'est quand même hashtag déprime. Armelle Lévy nous disait, il y a un avantage, Armelle, en ce moment.
On ne les arrose pas, les plantes, en ce moment.
Eh bien non, attention, il faut être très prudent. C'est pas parce qu'il fait froid et qu'on a l'impression que les plantes sont au repos qu'elles ne vivent pas. Elles continuent avec le soleil et la chaleur eh bien, à évaporer de l'eau par leur feuillage. Il faut donc les arroser. Alors à la plantation, quand on les plante, généreusement les arroser, mettre un engrais. Et puis après, régulièrement aller vérifier au regard et puis peut-être en touchant le substrat. S'il est sec, il faut arroser même au cœur de l'hiver. Et s'il gèle, le conseil que je vous donne, c'est de le faire en milieu de journée. La température est toujours un petit peu plus clémente et les plantes vont pouvoir en bénéficier.
Vous nous parliez de choux, j'avais l'impression tout à coup un peu qu'on était dans un potager. Armelle Lévy, vous avez remarqué, pardon à Pierre, mais il y a une nouvelle tendance un peu, c'est de faire des sortes de jardinières un peu thématisées. Si vous deviez thématiser, vous feriez quoi, Armelle Lévy ?
Bah là, c'est plutôt les citrouilles, potirons. Enfin, pour moi, c'est plutôt les couleurs un peu orange.
Couleur orange et puis un peu ambiance Halloween. On peut les thématiser, nos jardinières. Je peux faire du champêtre, du rustique, de la potagère.
Effectivement, on peut faire un côté potager gourmand et décoratif avec les courges et les potirons. On pourrait y mettre également des choux d'ornement. Il y en a beaucoup chez les horticulteurs. Y associer des plantes aromatiques comme le romarin, le thym ou la santoline. On peut aussi donner un côté un peu champêtre et bucolique à son rebord de fenêtre en insistant sur les graminées, je l'ai cité tout à l'heure, ou alors donner un esprit un peu forêt et rustique en jouant par exemple sur des mousses avec des morceaux d'écorce, avec des pommes de pin et donner un petit côté sous-bois à son rebord de fenêtre. Et puis en plus de ça, bien entendu, on va pouvoir jouer avec les couleurs. On va pouvoir travailler des camailleux, donc c'est plusieurs couleurs qui sont proches, le rose, le mauve, le bleu. On peut décliner un dégradé, une couleur qui va décliner plusieurs nuances, ou bien travailler uniquement avec une couleur monochrome, que du blanc ou que du bleu. Donc effectivement, il y a véritablement possibilité de s'exprimer sur un plan artistique, sur un tout petit rebord de fenêtre dans une jardinière ou un pot.
Et on doit mettre du terreau ?
Alors le terreau, oui, bien sûr, on en parlait tout à l'heure. Un terreau horticole du commerce, alors moi je le trouve un tout petit peu fibreux, il a du mal à se réhydrater, il se dessèche très très vite. Alors le conseil que je vous donne, eh bien, c'est de l'associer avec un peu de bonne terre de jardin. Et il faut le mélanger au terreau horticole qu'on va trouver dans le commerce, à raison de un tiers de terre de jardin pour deux tiers de terreau horticole et on obtient ainsi un substrat qui est beaucoup plus équilibré, une très bonne texture dans lequel les plantes et les racines vont bien se développer et surtout l'arrosage va pouvoir mieux se répartir au niveau du substrat.
Dites-moi combien de temps on peut espérer, Armelle et moi, et nos auditeurs évidemment, garder nos jardinières, garder nos fleurs cet hiver ?
Tout à l'heure je parlais des plantes bisannuelles, on parlait des violettes, des pensées, des pâquerettes, ça ce sont des plantes qui vont résister au froid et à l'hiver, on les plante à l'automne et on va pouvoir en bénéficier pendant tout l'hiver jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Oh. En revanche, les plantes qui sont des plantes plus spécifiques à l'automne, par exemple comme les chrysanthèmes, hein, les fameuses marguerites d'automne dont on parlait tout à l'heure, eh bien, dès les premiers fois, elles vont commencer à dépérir. Il va falloir les renouveler. Alors, le petit conseil que je pourrais apporter, là, c'est qu'à l'approche de Noël, vers le mois de décembre, pourquoi ne pas piquer quelques branches de sapin, mettre mettre une guirlande lumineuse, mettre des petites boules ou des rubans rouges sur ses rebords de fenêtres, développer la thématique de Noël pour ainsi renouveler, redonner un petit coup de boost à sa D'accord. décoration et tenir jusqu'aux fêtes de fin d'année.
Et puis remettre les paillettes un peu dans notre vie, Kevin. Hein,
et parce voilà.
Parce que ça, c'est quand même ce dont on a besoin en ce moment. On fait comme on peut. Elles ont un rôle à jouer dans l'environnement, nos jardinières ?
Ben, oui, parce que imaginez, Flavie, que si tout le monde au rebord de fenêtres, sur les balcons, fleurissait ce cadre ouais. de vie, eh bien, ça serait beaucoup plus beau et surtout bien meilleur pour le moral, comme vous veniez de le dire tout à l'heure.
D'accord, mais je veux dire, à part notre environnement psychologique, machin, je pense aux oiseaux, à toutes les petites bestioles qui...
Alors, évidemment, ça va servir d'abri, de petits biotopes qui peuvent accueillir quelques insectes, des papillons, mmh. des petits, des oiseaux éventuellement. Encore que les oiseaux, ils ont plus l'habitude d'aller dans les parcs, dans les grands jardins. Rebord de fenêtre, balcon, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est ouais. un petit peu plus ingrat pour eux. Mais tout ce qui peut apporter du végétal et le mettre en relation avec le minéral, c'est toujours un plus, effectivement, pour notre environnement et la planète.
Merci beaucoup, Pierre Nesman, pour tous vos conseils. C'était super intéressant, votre émission sur M6, c'est Mission Végétale. Et puis, je oui. rappelle aussi, Rustica pratique en kiosque. Vous aimez la soupe, vous, Pierre ?
J'adore la soupe.
Ah bah ouais, nous aussi, on est tous red dingue de soupe. Et on va en parler dans un instant avec Ligori Lecomte. Je vous embrasse, Pierre Nesman. À la
Merci,
prochaine sur RTL.
À bientôt.
Bye bye.
Ma soupe, s'il vous plaît. Je suis pressé. Je suis en mission.
On y va. Sens-moi ça. Ça sent bon. Ça sent le jardin. Ça sent l'écurie. Ça sent les quatre saisons. Ça sent la terre. La terre. La terre. La denrée.
Ouais, et puis après, ça sentait pas la rose. Hein. La soupe au chou de Jean Giraud avec Louis de Funès et Jacques Villeray. C'est quand même un grand classique. Hein. Pour plein de raisons, évidemment, on s'en souvient. Bonjour, Ligori Lecomte.
Bonjour, Flavie. Moi aussi, voilà, je vous dis bonjour à tout le monde.
Et je vous présente Armel Lévy qui est resté pour vous écouter. Je m'arrête là. Ligori Lecomte, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du site cuisineaz.com et auteur culinaire. Je vais vous laisser parler là parce que je sens le pourri remonter. Bon, et franchement, la soupe, alors on est tous là en train de dire qu'on adore, mais enfin bon, ça n'a pas toujours enthousiasmé tout le monde. Quand on était enfant, on nous disait que ça nous faisait grandir pour nous forcer à en manger. Mais en fait, c'est vachement loin d'être austère. Ça vient d'où cette image négative de la soupe?
Alors surtout que beaucoup d'enfants qui en ont mangé ont été un peu déçus parce qu'ils n'ont pas forcément grandi plus que ça, malheureusement. Donc ça a forcé un petit
ouais,
peu
on
cette.
On s'en foutait un peu, mais c'est surtout qu'on
image négative.
Bon, quoi, vous voyez, en fait.
Et, bah, et puis au-delà de ça, en fait, ça a toujours véhiculé une image un petit peu de repas du pauvre, vous voyez, ouais. Cette image de soupe. Donc ça n'a pas plaidé pour elle. Ouais. Mais bon, pour tous ceux qui sont encore réticents, s'il y en a, j'ai un petit verre de Scarron qui disait que quand on se gorge d'un potage succulent comme un consommé, si notre corps en est charmé, notre âme l'est bien davantage. Donc voilà, oh. Ça peut convertir certains.
C'est quand même mieux, vous avez relevé le niveau tout à coup, hein, dis donc. Ligori, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se retrouver. Parce que, en fait, moi, je me dis que les soupes que je mangeais quand j'étais petite, pardon, hein, mais elles étaient pas super, quoi. Alors qu'en fait, il y a plein de super soupes à faire. Vous allez nous donner plein de recettes qui vont nous donner, justement, envie de manger des légumes. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Bon, nous continuons à se marrer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. On essaye de faire résistance à la morosité ambiante. Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 10h. Armel Lévy, restez dans notre studio. Nous voilà bien, vous donne des recettes maintenant de soupe. Alors la soupe, ça a mauvaise presse. Et pourtant, quand c'est Ligori Lecomte qui nous donne des recettes, je peux vous assurer qu'on a envie d'en faire dès aujourd'hui.
Non, mais l'exploit, toi, t'es tombé dedans quand tu étais petit.
Oui. Allez, viens, Edifix.
Il va falloir une petite démonstration, Astérix. Doucement, je l'ai peut-être un peu chargé. Je l'ai un peu chargé.
Ouais, très bien, là. Oh mmh.
C'est vrai que la soupe, c'est un peu la potion magique, hein, Ligori Lecomte, hein, d'Astérix et Obélix, hein, parce que forcément, à un moment donné, elle est un peu chargée, mais chargée en plaisir, et c'est toujours bon pour la santé, en fait. Hein. Elle a de réels bienfaits, la soupe, Ligori ?
Toujours, voilà, c'est aussi chargé en minéraux, des fibres, ouais. On a besoin, bah, y en a plein aussi dedans, et puis c'est aussi rassasiant, mais sans être calorique. Donc vous pouvez vous faire plaisir à côté avec un petit peu de fromage, en général, ça posera pas de soucis. C'est et puis alors, on l'oublie souvent, mais l'été, on boit, on s'hydrate fort, mais l'hiver, c'est aussi un des moyens pour maximiser vraiment l'hydratation et boire un petit peu plus.
Armel Lévy, c'est une grande fan de soupe, on lui demandera tout à l'heure quelles sont ses recettes. Vous connaissez, Armel, la différence entre soupe veloutée et potage ?
Velouté, c'est plus
C'est avec de la crème, non, du
Ligori de con. Mais moi, c'est vrai que je ne fais pas la différence. J'ai l'impression que le velouté est plus noble, la soupe plus rustique et le potage avec des morceaux. Mais peut-être que je vous dis une bêtise.
En fait, la soupe, c'est devenu vraiment un terme générique au fil du temps. Le bouillon, par exemple, c'est vraiment un liquide dans lequel vous allez cuire des légumes, du poisson, une viande. Si vous le faites réduire, en fait, il va se concentrer en goût et évaporer un petit peu l'eau, donc tu n'as pas forcément besoin. Et là, ça va devenir un consommé. Le velouté, comme vous l'avez dit, donc c'est un peu plus soyeux, c'est lié avec de la crème, souvent des jaunes. Alors, le potage, c'est plutôt une soupe, mais qui est peu consistante, normalement, de base. Donc, ouais, tout peut être quand même considéré comme soupe, mais avec chacune leur petite particularité.
Ça se mange ou ça se boit, la soupe?
Ah, alors, très bonne question, ça. En fait, historiquement, la soupe, c'était quoi? C'était un morceau de pain qu'on imbibait avec du bouillon, en fait. Comme le pain, forcément, à la fin du mois, au Moyen-Âge, il était plus très, très moelleux. C'était le seul moyen, en fait, de pouvoir le manger, de le réimbiber pour qu'il soit mangeable. Donc là, à l'époque, ça se mangeait. Mais ça peut être les deux, hein, comme je disais, en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Si c'est plutôt soupe de légumes facile ou un peu plus élaborée avec des choses dedans ou à côté, il n'y aura pas d'erreur sur ça se mange ou ça se boit, pas de souci.
Et du coup, ça peut être un repas complet, en fait, quand je vous écoute?
Alors oui, moi ce que je conseille aussi, c'est toujours avoir quelque chose à mâcher à côté. Du coup, à côté de cette soupe, même si c'est alors, une tartine, une petite salade ou quelque chose, c'est aussi pour ça que d'origine, ce pain rassis, maintenant après, on en a fait des petits croutons, vous savez, frottés à l'ail, pour avoir quand même un petit peu de mâche dans la soupe.
Pas bête. Dites-moi, les soupes industrielles, on peut se le dire, c'est pas bon, c'est dégueulasse.
Oh, on oublie.
Autant
on
les
oublie.
Faire soi-même.
On oublie, c'est dégueulasse. Ce qu'on veut sur une soupe de légumes, c'est des légumes, pas des petits trucs déshydratés, mixés.
Puis franchement, ça dégoûte les enfants de la soupe. Moi, j'ai été élevée à ça et franchement, quoi, j'ai mis du temps à recouvrer le goût de la soupe. Voilà, on peut le faire avec nos enfants, ça peut être un moment super agréable.
Ah, tout à fait. Ouais.
Et puis voilà, acheter des bons légumes. Voilà, c'est ça. Ne prenez pas des soupes en briques, par pitié, quoi. C'est vraiment pas bon. Alors, quelles sont les recettes qui peuvent nous convaincre? Armelle Lévy, vous prenez des notes, hein, parce que Armelle Lévy, elle est restée pour vous, mon cher Ligo. Je peux vous le dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme soupe aujourd'hui?
Alors, je peux vous proposer deux petites soupes, du coup. Une plutôt réconfortante, qui va être une soupe butternut et noix. Et puis une autre qui sera un petit peu plus chic et je vous la garde juste pour après.
Allons-y.
Pour cette soupe butternut et noix, il va falloir un oignon, un butternut, une cuillère à café ou une cuillère à soupe en fonction de cumin, 500 ml de bouillon de volaille, toujours mieux que de mettre de l'eau directement, vous voyez, comme ça c'est un peu plus parfumé, des noix qu'on va concasser pour après, et puis alors facultatif, 20 centilitres de lait de coco, je garantis que c'est aussi très très bien pour pimper cette soupe. Donc on commence par tailler l'oignon en petits dés, et puis éplucher le butternut et tailler lui en gros dés. Alors dans une casserole, vous allez mettre un filet d'huile d'olive, vous allez faire revenir vos oignons tranquillement avec le cumin. Donc surtout, on met le cumin au début. Pourquoi? Parce que vous allez torréfier cette épice. Du coup, elle va avoir encore un peu plus de caractère, votre soupe, et vous allez décupler vraiment la saveur du cumin. Ensuite, on y ajoute nos dés de butternut, et on fait cuire ça pendant environ 5 minutes. Ensuite, on ajoute le fond de volaille. On laisse mijoter environ 20 minutes, et puis alors après, on rectifie l'assaisonnement. C'est toujours mieux de le faire après qu'avant. Et puis alors là, vous pouvez rajouter un petit peu de lait de coco et mixer l'ensemble. Vous verrez que ça change aussi pas mal et c'est vraiment surprenant. Et puis à la fin, vous n'aurez plus qu'à concasser quelques petites noix au-dessus et accompagner ça avec voilà, moi, un fromage que j'aime bien avec ça, c'est de mettre un petit peu de minster sur une tartine au four.
Avec le cumin, c'est vrai que ça fait
bien. Et vous allez vous régaler. Ah ouais, ça marche vraiment très très bien.
Alors, c'était quoi votre petite surprise qui allait nous faire succomber encore, les gorilles de
coco? Alors pour l'autre recette, en fait, moi je vais vous proposer un velouté de poireaux à la vanille. Et puis là, vous pourrez accompagner ça avec un petit œuf poché, comme d'habitude, avec un petit élément à mâcher à côté.
Poireau vanille? Alors là, mariage super surprenant. On vous écoute.
Alors, mariage surprenant, mais vous verrez que ça plaît même aux enfants pour leur faire apprécier la soupe, et notamment la soupe aux poireaux. Ça marche vraiment très très bien, ouais.
Alors, comment on fait?
Alors, il vous faut deux poireaux, un oignon, une carotte, une cuillère à soupe de miel, 1 litre de bouillon de volaille, 10 centilitres de crème fraîche liquide, et puis alors un petit peu de beurre, une demi-gousse de vanille et un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Vous allez tailler d'abord vos poireaux et votre oignon en fines lamelles et puis la carotte en petits dés. Dans votre casserole, vous allez faire chauffer un petit peu de beurre sur feu moyen. Vous allez ajouter l'oignon et puis la petite cuillère de miel. Là, vous allez laisser vraiment caraméliser un petit peu votre oignon. Ensuite, vous allez ajouter la carotte et vos poireaux. Vous allez gratter la gousse de vanille et puis alors vous allez mettre et les graines et puis vous pouvez mettre la gousse aussi pour laisser infuser avec le reste des aliments. Vous salez, vous poivrez, vous faites revenir pendant 5 minutes et puis après ces 5 minutes, vous allez ajouter votre bouillon de volaille et là vous laissez cuire à frémissement pendant environ une vingtaine de minutes. Et après ces 20 minutes, alors là attention, on retire la gousse de vanille que vous avez laissé tremper et infuser et après ça, vous rajoutez votre crème fraîche liquide, vous mixez, vous ajustez l'assaisonnement. Et je vous garantis que c'est vraiment top. Et alors, le petit œuf poché à côté, un œuf bien frais, que vous l'ajoutez dans votre velouté, je vous garantis que c'est une belle entrée ou un plat pour ce week-end.
Elle est verte en couleur, ça donne quelle couleur? C'est vert.
C'est ça. En fait, ça va vous donner un petit vert clair. En fait, alors si vous faites plutôt en soupe ou en potage, ça sera forcément un petit peu plus vert. Mmh. Si vous mettez après beaucoup de vert de poireau ou si vous gardez plutôt les blancs. Et puis après, bah forcément, vous allez rajouter un petit peu de crème fraîche liquide qui va vous blanchir un petit peu ce velouté.
Super. Et je sais que vous êtes venu pour ça.
Mais ça, c'est à chaque fois, de toute façon. Hein. Des gros bisous. Hein.
Je lui fais des gros bisous, Ligourie Lecomte. Je vous remercie d'avoir justement passé ce moment avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du site, ça m'émeut de vous embrasser, cuisineaz.com et auteur culinaire. Merci beaucoup, Ligourie. Je vous embrasse. À la prochaine.
Merci,
sur
à très bientôt.
Des bisous, on aime ça, mais ça signifie aussi que nous voilà bien. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, nos replays vous attendent sur rtl.fr, les recettes sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup Armelle Lévy d'avoir été avec nous. Je vous embrasse aussi.
Moi aussi, je vous
de là où je peux vous embrasser dans ce studio sécurisé. Et puis je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre. C'est le magazine du partage et de la réflexion. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.